Radio Spirale. Le numéro 25 des Cahiers littéraires Contre-jour portait comme titre « Mort et naissance de l'essai littéraire ». C'est un numéro au ton très souvent apocalyptique qu'on retrouvera ici dans cette table ronde qui en soulignait la parution et qui réunissait plusieurs des collaborateurs du numéro. Voici donc Guillaume Asselin, Étienne Beaulieu, Jean-François Bourgeot et Gilles Dupuis dans cette table ronde animée par Frédéric Bernier. Cela se déroulait à la librairie L'écume des jours en novembre 2011.
Merci beaucoup d'être là pour cette discussion autour du dossier du dernier numéro des Cahiers littéraires Contre-jour, qui était dédié à la question du destin de l'essai littéraire. Donc, « Mort et naissance de l'essai littéraire », un titre tragicomique. On verra comment ça engage la discussion. Donc, je voulais simplement, avant qu'on plonge dans ce dossier, donner une petite idée du sommaire de ce numéro de façon plus générale, puisque chaque fois, les numéros de contre-jour comprennent aussi une section de texte de création et une section de notes de lecture, donc en plus du dossier. Et cette fois-ci, donc, dans cette livraison numéro 25, on avait trois textes dans la section création, dont un extrait du dernier carnet de Jean-Pierre Issénut apparaître éventuellement. Donc, « La géométrie des ombres », un récit de Jean-Marc Limoges, ainsi que des poèmes de Jean-François Daud et d'Iris Batty. Il y avait aussi des notes de lecture sur les films d'Étienne O'Leary, note de lecture de Guillaume Lafleur, une note d'Étienne Beaulieu sur un essai d'Annie Lebrun et une note de Thomas Mingy sur les deux derniers livres de Jean-Pierre Issénut. Et je tiens aussi à parler des magnifiques œuvres qui traversent ce numéro, des œuvres picturales à l'encaustique d'Alexandre Massineau qui est ici avec nous aussi. Donc voilà, et plongeons maintenant un peu dans ce dossier dont nous allons discuter ensemble. Donc, simplement donner aussi une idée des participants au dossier, en plus de ceux qui vont prendre la parole ce soir. Donc, ont participé à ce dossier, ont des textes sur l'essai, Daniel Laforêt, Nicolas Lévesque, Éric Gagnon, Isabelle Descaries, Anne Comartin, Nicolas Goyer et Régent Beaudoin. Donc, je me rends compte que je ne me suis pas présentée. Je suis Frédéric Bernier. Je suis membre des Cahiers littéraires Contre-jour. Donc, je vais vous présenter brièvement les participants qui vont les pugilistes de ce soir. Donc, Gilles Dupuis. Professeur de littérature à l'Université de Montréal, directeur du CRILC, toujours, oui, à l'Université de Montréal, et membre des comités de rédaction des revues Spirale et Intermédialité, et ami de Contre-jour. Nos trois autres participants sont des membres du comité de rédaction de Contre-jour, donc Étienne Beaulieu, qui a coordonné le dossier, qui est aussi professeur de littérature à l'Université du Manitoba, Jean-François Bourgeot, également donc membre de Contre-jour et professeur au cégep de Saint-Laurent. Et finalement, Guillaume Asselin, qui est professeur de littérature au cégep Marie-Victorin et collègue donc à Contre-jour. Donc, peut-être que je peux mettre un petit peu la table en lisant d'abord, si vous le voulez bien, le paragraphe qui venait un peu présenter le dossier et faire une sorte d'état de la question sur l'essai littéraire au Québec. Donc, je vais lire avec vous ce petit paragraphe. Donc, « Se pourrait-il que nous assistions aujourd'hui, pratiquement impuissants, à la disparition progressive de l'essai littéraire? Bouté hors de l'université par un savoir plus analytique et historique, se cantonnant dans des zones peu fréquentées de lecteurs amateurs ou dans la section peu recommandable des divagations d'écrivains passant d'ailleurs le plus souvent inaperçus, l'essai proprement littéraire, celui qui coupe à travers les champs des savoirs et spécule sur des possibilités plutôt que sur des faits, ce genre essentiel entre tous, que l'on confond souvent avec l'étude à l'heure du règne intellectuel des universitaires, se fait rare de nos jours et dépérit à chaque recension. Quelle en est la raison? Cette disparition serait-elle causée par un état de société devenu allergique à l'approximation, dont a besoin l'essai pour lancer des hypothèses, le plus souvent invérifiables? Qu'est-ce que dit sur le monde d'aujourd'hui, toujours plus spécialisé, et sur la littérature contemporaine, cet amenuisement d'un genre autrefois parmi les plus importants et maintenant tombé en presque désuétude? Tentant de répondre à ces questions, et peut-être de ne pas y répondre en faisant justement de cette question de l'essai un appel à ne pas répondre au sempiternel appel de texte, il s'agit surtout dans ce dossier de tenter de relancer le goût et la nécessité de l'essai littéraire, de susciter une liberté de ton qui décidément se perd. Donc, c'était l'appel et l'entrée en matière légèrement apocalyptique de ce dossier. Et ma première question pour vous lancer serait peut-être à propos de ce ton d'urgence. D'où vient, en fait, à propos de l'essai, cette impression d'une perte ou d'une disparition? Pourquoi ce sentiment d'urgence, ce ton un peu catastrophé? Et si l'essai est vraiment à l'agonie, que perd-on avec lui? Donc, voilà, je vous lance ces questions et vous pouvez répondre dans le désordre que vous voulez.
D'abord parce que le ton catastrophé, ça fait vendre des copies. Non, sans blague. Non, absolument pas. Non, ton catastrophé, la coordination du dossier, pourquoi c'est simplement une question d'un manque, un sentiment que l'essai, ça répond plus du tout aujourd'hui à ce que moi j'ai eu comme formation, par exemple, où l'essai, c'était le genre suprême, où j'avais l'impression qu'on me parlait vraiment, qu'il y avait quelqu'un qui s'exprimait, qu'il y avait même, je dirais, une voix maîtresse qui m'indiquait la voie à suivre, etc. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est le contraire, que c'est presque moi qui dois dire aux essais où se diriger, c'est-à-dire dans ma bibliothèque, de voir passer d'un rayon à l'autre où les voix se sont amenuisées, puis chuchotent, n'ont presque plus de portée, alors que j'ai l'impression que les essayistes avaient vraiment une ampleur de vue, une ampleur de voix qu'ils n'ont plus. J'ai cette impression-là. Est-ce que c'est mieux que ce soit comme c'est l'état des choses actuelles? Je pense pas. Je pense que l'essai littéraire aujourd'hui, c'est ça, on doit lui redonner une voix, on doit lui redonner... Bon, c'était ça le but du dossier. Je ne me fais pas d'illusions sur la portée de ce numéro-là. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais n'empêche que c'était ça le but, un peu, en toute humilité, là, d'essayer de redonner une certaine... En tout cas, au moins de braquer des projecteurs sur qu'est-ce qui se passe avec l'essai aujourd'hui. Et je sais que le trois quarts des gens ne seront pas d'accord avec les affirmations catastrophistes, mais au moins, ça peut lancer une discussion là-dessus. Voilà. Je pense que non, je pense que...
Mais moi, je pense que... Bon, mon texte terminait sur une note assez pessimiste, mais en fait, je pensais à la situation au Québec. Parce que, en fait, si je pense en France ou en Italie ou en Europe en général, je ne suis pas du tout inquiet pour l'essai littéraire là-bas. C'est ici, on va peut-être y revenir tantôt sur la question de l'université. Hein, ici, c'est que l'essai est de plus en plus réfugié à l'université. Il y a des universitaires qui font des vrais essais littéraires, mais il y a beaucoup d'universitaires qui font seulement des études savantes. Hein. On va y venir tantôt, puis je pense que ça, c'est un problème ici. En France, en Italie, ça ne se pose pas, parce que les universitaires font des études savantes, font des essais universitaires, et c'est complètement différent de l'essai littéraire, parce que, pour la raison, je pense que là-bas, il y a encore un troisième lieu qui existait au Québec dans les années 60-70, qui n'est ni l'université, ni le lieu des masses médias, de la culture populaire, un lieu de réflexion, un lieu de culture, un lieu de pensée. Et c'est là que sont les essayistes. Si on regarde en France, Solers, Quignard, Massé, Chantal Thomas, Annie Lebrun, enfin, il y a une pléthore d'essayistes qui font de l'essai littéraire de façon sérieuse, qui font même, à la limite, leur médias d'expression et de pensée. Essayons de trouver la même chose au Québec maintenant. Il y a eu des Bas de bon cœur qui ont pu faire une carrière d'essayiste réellement presque en marge de l'université. Bas de bon cœur. Bas de bon cœur.
Oui. Et non pas des Bas de bon cœur.
Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'ici, le problème, c'est que ce troisième lieu qui existait, d'ailleurs, moi, je trouve que les essayistes les plus intéressants, c'était probablement ceux qui ont émergé dans les années 60-70, et là, maintenant, on dit soit qu'ils sont réfugiés à l'université, soit qu'ils ont fait de l'essai populaire. Il y a quelques personnes qui résistent, et puis, je m'exprimais peut-être un peu plus sur la question de l'université, parce qu'il me semble que c'est ça le problème au Québec, mais que ça ne se pose pas comme ça en France ou en Europe en général.
Ben, à mon sens, je ne sais pas exactement si l'essai est en voie de disparition ou non. Je n'oserais pas m'avancer là-dessus. Par contre, à la limite, si l'hypothèse était juste, puis qu'on était sur le point de perdre quelque chose comme une voie essayistique, ce qui disparaîtrait, puis bon, c'est de la pure spéculation, là, je ne sais pas si c'est vrai ou non, ça serait quelque chose comme une zone franche ou une espèce de Suisse d'un intellect, là, parce que bon, pour moi, un essayiste, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui forcément appartient à une discipline de manière ou d'une autre, parce qu'on a tous été formés dans les départements, mais c'est le moment, par exemple, où le philosophe s'arrache à la philosophie, le sociologue s'arrache à la sociologie, et que, quelle que soit la discipline d'origine, il se dirige vers un espèce de lieu qui sera au carrefour de toutes ces disciplines-là, où il pourrait parler sans être attaché à aucune forme, justement, ni de jargon, évidemment, mais aucune forme de légitimation. Et puis là, il serait dans une sorte de pensée sans qualité, si on veut reprendre le terme de Mouzil, là, parce qu'il penserait à partir de ce que Valérie appelle la volupté de penser. Là, ce lieu-là, qu'il existe ou non, il me semble que tout essayiste le recherche malgré tout et que, d'une certaine manière, il est en but contre sa formation. L'essentiel, plusieurs des essayistes québécois ont été des renégats d'université, c'est pas pour rien. C'est parce que la formation, on l'a, qu'on la veuille ou non. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait après. Et si l'essai venait à disparaître pour les raisons institutionnelles, sociologiques que tu évoques, Gilles, à mon avis, ce qui disparaîtrait éventuellement, c'est peut-être ça. Et puis, bon, dans cette hypothèse-là, je trouve qu'effectivement, on assisterait à quelque chose comme une assignation en résidence dans les spécialités qui communiquerait peut-être moins. Ce que j'ai aimé comme tel au Québec, qu'on a eu ici, qui était particulier, c'est que quand on avait des revues, avant que les revues soient spécialisées entre revues savantes et revues culturelles, au Québec, on se rencontrait, quelle que soit justement la provenance, et c'était des espèces d'auberges espagnoles où tous pouvaient se rencontrer, justement, sans que les spécialités deviennent des entraves qui coupent court à la communication. S'il y a un problème actuellement, je pense, c'est peut-être ça, une surspécialisation comme telle des universitaires qui font en sorte que l'essai, par son utopie, se retrouve pris un peu là-dedans, entre le bois et l'écorce, là, parce qu'il trouve mal sa niche, justement.
Mais il y a ce cloisonnement des savoirs, mais il y a aussi, en fait, ce qui se perdrait, pour moi, c'est un style de pensée carrément, qui est une forme de pensée analogique, une forme de pensée par image, qui me semble être au fondement même de la littérature. Et moi, ce qui m'atterre, disons, c'est de penser que des gens, donc, se étudie des textes littéraires où cette pensée-là donc, est à l'œuvre constamment et qu'on prétend donc, en parler à partir justement d'un type de pensée purement linéaire, discursif, qui se contraint justement dans des formes qui sont à l'opposé même de ce qu'on est supposé justement donc, recevoir du texte littéraire. Là. Et c'est comme si les leçons qu'on devrait recevoir des écrivains, ben voilà, on leur fait la leçon dans une forme justement purement didactique. On contraint la pensée à se mouvoir sur un terrain extrêmement limité, là où, pour moi, au contraire, c'est l'écriture, on la définit comme une expérience de conscience. C'est une forme qui émerge dans une espèce de jaillissement dont l'image témoigne. À partir du moment où, à l'université, on se méfie justement de la fascination du pouvoir hypnotique de l'image en en faisant un obstacle épistémique, justement, un obstacle pour la pensée, pour moi, justement, ça, c'est être contre la littérature elle-même.
Moi, j'ai eu l'impression, en lisant le dossier, que l'essai était considéré non seulement comme un genre parmi d'autres, par beaucoup des auteurs qui s'y faisaient entendre, mais qui devenait un peu synonyme du lieu même de la pensée, sinon de la conscience, sinon de l'âme, donc qui a dans ce dossier-là une vision, une définition de l'essai qui s'assume comme très, sinon métaphysique en tout cas, qui voit là vraiment dans ce lieu, le déploiement même de la pensée. Donc, évidemment, à ce moment-là, penser sa disparition paraît assez sombre et...
Ah, c'est certain, on donne toujours de l'âme à ce qui disparaît, non? C'est évident. On prête toujours plus d'âme à ce qui est sur le point de nous échapper. Mais bon. Mais je voudrais dire, peut-être, l'essai, là, parce que là, on est en train de diriger ce dossier-là contre une espèce de charge contre l'université, mm-hmm. Ce qui n'était pas du tout l'idée de départ, ça n'a rien à voir. Mais c'est bizarre que ça se transforme un peu comme ça. Peut-être que c'est parce que, comme dit Gilles, c'est un cas particulier au Québec, peut-être. Je n'avais pas mesuré ça. Mais l'essai, il va continuer d'exister. Hein. C'est ça, le truc, c'est l'attention qu'on va lui donner. C'est ça, la différence. Des essais, ils s'en publient plein aujourd'hui, puis j'en parle un peu dans mon texte. Ils s'en publient plein, mais le problème, c'est que j'en ai vu beaucoup rangés dans le rayon de la croissance personnelle, dans les bibliothèques, dans les librairies, pour vrai, là, des essayistes, des écrivains. Et c'est ça le problème, c'est comment est-ce qu'on les considère, comment est-ce que c'est reçu. C'est peut-être là que l'université intervient. C'est peut-être ça le problème de ce champ-là. Mais bon, en faire la voix de la conscience ou de l'âme, ça me semble à la fois exagéré et vrai. Ça me semble à la fois tout à fait pertinent parce que l'âme s'exprime autrement mieux dans cette espèce de champ-là entre l'image et l'idée. Il y a une espèce de frange entre les deux qui est tellement plus parlante que simplement un discours qui se dirait « je suis un discours d'idées » comme l'étude, le savante le veut, ou un discours plus poétique où c'est l'image qui domine. Il me semble que le mélange des deux, c'est exactement là que l'âme se situe, qu'elle peut jaillir. Que, moi, j'ai eu pas peur de ce mot-là, même si je sais que ça fait peur à bien du monde, juste de prononcer le mot « âme ». On a l'impression que tout à coup, « oups, sortez votre catéchisme, et prions en église, ça va être le meilleur essai », alors que c'est pas du tout l'idée qui est derrière ça. C'est l'âme comme jaillissement, peut-être. Comme saut, dans le saut d'un champ à l'autre. C'est peut-être plus ça.
Mon système usuel aussi, je trouve qu'il y a une formule absolument fantastique qui résume bien en fait, l'esprit de l'essai. Il parlait il y a une exactitude de l'âme. Et ça, je pense qu'on le perd tout à fait dans l'étude savante où bon, l'âme est d'emblée disqualifiée finalement et donc il n'y a aucun fantôme théologique derrière ça. Il s'agit simplement d'assumer une sensibilité. Et ben, il me semble que c'est la question de l'université se pose d'autant plus que quand même c'est, pour reprendre donc un terme bourdieusien, on y reviendra aussi j'imagine, mais dans le champ symbolique, ce qui domine, c'est un type de pensée justement qui est... disons, qui prône l'objectivité comme étant la voie, finalement, de la pensée, dans la mesure où, dès qu'on se compromet à essayer de nourrir une pensée à l'affect, à la sensation, aux impressions, on passe pour donc un clown ou quelqu'un qui manque de rigueur. Alors que pour moi, il s'agit de retourner la critique. Il me semble qu'il y a une peur, là, d'assumer une pensée subjective, non pas au sens d'approximative, mais au contraire d'ancrer, une pensée ancrée dans l'existence qui n'hésite pas justement à faire des sauts. Et c'est tout le temps dans ces sauts-là qu'il y a quelque chose qui peut se passer.
Mais je te suis pas, moi, pardon, quand tu dis une exactitude.
Une exactitude de l'âme, ouais, c'est-à-dire
que,
oui, ouais. Non, de l'âme.
De l'âme.
Il y a une exactitude de l'âme.
D'accord. Ouais, parce que justement, c'est une exactitude de l'âme.
C'est-à-dire qu'il y a une science, de la même façon qu'il y a, je veux dire, une science de l'âme, dans la mesure où il y a une précision qui peut aussi exister forcément dans la subjectivité. Je veux dire, c'est l'art, c'est essentiellement ça. Et moi, j'en ai contre cette espèce de discours dominant, donc scientifico-machin, qui voudrait nous faire croire que le sommet ou le summum de la pensée, c'est toujours de s'élever au-dessus d'une subjectivité comme ça pour... voilà, donc pour se prévaloir d'une objectivité qui est purement illusoire. Je veux dire, même les scientifiques eux-mêmes le disent, Einstein parlait de l'objectivité comme d'une illusion de la conscience. Alors qu'on voit plein de littéraires juste tomber dans ce panneau-là.
Mais est-ce que l'université a jamais vraiment été un lieu accueillant pour ce type de pensée-là?
Ben oui, bien sûr. On en a parlé aussi dans un petit peu dans le numéro. Je dis, il y a eu des générations de professeurs, essayistes, écrivains, et on le voit bien. Je dis que c'est une tendance qui va avec la rhétorique des demandes de subventions où ils sont écartés justement au profit de spécialistes.
Mais honnêtement, là, parlons-en de cette histoire-là, puisque ça a l'air de débuter tout le monde, mais il me semble que, c'est en fait, ce dont on se rend compte là, avec la génération d'essayistes qui est en train de tirer sa révérence tranquillement, il y en a qui sont décédés, il y en a d'autres qui progressivement prennent leur retraite, etc. En fait, ce moment-là était une exception. Au lieu d'être la règle, voilà, on a l'impression, quand on a été formé en fait, à ce moment-là, qu'on avait l'impression que l'essai était... alors qu'en réalité, dans l'histoire, avec... La dominante lansonienne qui précédait, etc. En fait, en réalité, ça a duré peut-être une décennie, deux décennies, et puis que cette fenêtre-là qui s'est ouverte est en train de se refermer. Puis ça ne sera pas l'université qui va faire vivre l'essai. C'est ailleurs, et c'est peut-être une bonne chose.
Ouais. Donc, je pense pour revenir peut-être au fait que la thématique du numéro, c'était mort renaissance de l'essai littéraire, pas juste de l'essai. Et selon les différents textes, des fois on parle d'essai de façon générale, des fois on parle d'essai littéraire. Et pour moi, vraiment, la différence, c'était ma thèse de doctorat portait là-dessus. Ça j'essayais de circonscrire, puis je ne suis pas arrivé à bien le faire.
Publié.
Non, puis elles ne sont pas publiées probablement. C'est la différence entre l'essai universitaire et l'essai littéraire. Et je pense que le problème se pose au Québec. Là. Je pense vraiment. Est-ce que, comme je l'ai dit, en France, c'est séparé nettement, puis c'est que ça fonctionne bien comme ça. Je vais revenir sur quelque chose. La sollicitation que je vais faire, c'est du fameux DOLC, le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec. J'en ai toujours avec contre le Dolk. J'ai toujours quelque chose à reprocher au Dolk. La question de l'essai me semble assez évidente. C'est censé être donc une recension de 1534. On est rendu en 1985, mm-hmm. en fait, de tout ce qui s'est publié de littéraire au Québec, d'œuvres littéraires. Hein. Pour le roman, la nouvelle, le théâtre, la poésie, pas de problème. Mais c'est toujours pour l'essai qui est problématique. Même les éditeurs du dictionnaire ont beaucoup de difficultés à définir qu'est-ce qu'ils entendent par essai. Alors, je vous donne une citation dans le volume 7, le dernier volume qui est paru, même si le volume 8 y est prêt, mais bon, il n'est pas encore sorti.
Oui, je pense qu'il vient de paraître.
Il vient de paraître enfin,
Devoir
là?
Ce
OK,
matin.
Bon, on l'attendait. Alors, au début, dans les premiers volumes, bien sûr, tout ce qui s'écrivait au Canada français était recensé. Puis plus qu'ils ont avancé avec le temps, évidemment, ça devenait difficile, la masse de production étant escalée. Et maintenant, ils fonctionnent sur 5 ans. Et même sur 5 ans, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus tout recenser, donc ils doivent faire un choix. Et pour ce qui est de l'essai, voici ce qu'il dit. « C'est ainsi que des genres figurant autrefois dans le corpus ont été graduellement éliminés au profit d'œuvres indiscutablement marquées par du sceau de la littérature, tant par la qualité de l'écriture que par les visées des écrivains. » Je vais revenir sur la qualité de l'écriture, parce que pour moi, c'est ça qui ça se joue à ce niveau-là. Et là, il donne des exemples. On a éliminé progressivement les recueils de piété, les monographies de paroisse, les ouvrages de théologie ou de philosophie. Bon, tiens, il ne peut pas être admirablement écrit, bon, je ne sais pas. Et des pamphlets politiques. Si vous regardez le volume 7, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'ouvrages d'histoire, pas seulement d'histoire littéraire, mais d'histoire, de sociologie. Tout ce qu'écrit Fernand Dumont, qui est sous la direction de Fernand Dumont, va être recensé dans le Dolk. Est-ce que c'est nécessairement littéraire? Les actes de colloque, des essais d'universitaires qui portent sur la littérature ou sur le littéraire en général. Alors là, dans le Dolk, il y a une confusion. On a l'impression que parfois, essai littéraire veut dire essai qui porte sur la littérature, et d'autres fois, c'est essai qui a une qualité littéraire. Mais moi, je doute, il y a bien des essais qui sont recensés dans le Dolk, qu'ils ont tous une grande qualité littéraire. Qu'est-ce qu'ils entendent par qualité de l'écriture? C'est ça contre quoi je me suis insurgé dans mon texte. C'est bien écrit. Ça fait littéraire. Il n'y a pas de style. C'est pas grave que l'auteur n'a pas de style, mais au moins, il écrit bien. Il n'a pas de faute, sa syntaxe, on comprend, c'est écrit en français, un bon français relevé, c'est pas nécessaire en joie, et ça, c'est bien écrit, c'est parfait, c'est littéraire, ça rentre. Donc, évidemment, Fernand Dumont écrit très bien, pas de problème, on va le recenser. La biographie du curé Labelle, on va recenser ça dans le volume 7, etc. Par contre, un ouvrage d'un philosophe, non, parce que c'est pas littéraire. Alors là, c'est plus la question de l'écriture, c'est ça porte pas sur la littérature. Il y a une confusion totale dans le Dolk, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est universitaire et au Québec. En France, on réglerait ça d'une toute autre façon. Y a-t-il un style? Est-ce qu'on écrit à partir d'un lieu, d'un autre lieu qui n'est pas celui de l'université ni celui de la culture populaire? Et là, il y a une voix qui se fait entendre, il y a une signature. Ça, c'est un essai littéraire. Sinon, c'est de l'essai, mais c'est pas de l'essai littéraire. Au Québec, il y a confusion totale, parce que des fois, on parle du genre, des fois, on parle du contenu, d'autres fois, on parle de l'écriture, mais on parle surtout pas de style.
Mais je vous avais soulevé quelque chose et j'ai envie de le questionner un peu. Il me semble qu'à un certain moment, au Québec, l'essai a été considéré comme un genre privilégié parce qu'il y avait des essayistes, mais aussi parce qu'il y avait eu une certaine élaboration d'une théorie de l'essai, et le Québec était considéré comme aux premières lignes pour théoriser l'essai, précisément à cause de son histoire littéraire, où le littéraire a sans cesse côtoyé le non-littéraire, une certaine porosité de la définition même du texte littéraire à travers l'histoire littéraire québécoise. Si on veut avoir des textes au 19e siècle, mais on n'a pas le choix justement d'ouvrir la portée, et il y a eu un moment dans l'histoire de la littérature québécoise où cette porosité-là a profité à l'essai. Et est-ce que maintenant, le fait que les romans soient si florissants, que les genres se spécialisent, est-ce qu'il n'y a pas une fermeture de cette porte-là qui avait été rendue possible par, euh, par notre histoire littéraire et ce qui la particularisait et la nécessité de remettre en question les cloisons entre le littéraire et le non-littéraire et de se poser précisément la question, parce qu'on ne clorera jamais la question de savoir ce qu'est cette frontière.
Là, je voudrais intervenir par rapport à la relation entre l'essai et l'université.
Jean-François, bonjour.
Oui, c'est moi. c'est que, bon, on tendance, par exemple, parfois, quand on tombe dans l'ancien académisme, ce qui fait un peu peur là-dedans, c'est que ça peut être à deux doigts l'anti-intellectualisme. Et souvent, c'est dans un type de discours où on considère que l'essai devrait naturellement être à l'université, dans les départements, et que de déplorer la disparition des essayistes en tant que professeurs, par exemple, c'est une manière de déplorer une certaine forme de dérive des départements hors de ce qui devrait être. Or, je pense que là, on est rendu à une étape, là, en 2011, où il faudrait commencer à penser, pour absorber le choc, à ce que ça pourrait être, finalement, la littérature dans un monde où les départements de littérature n'existeraient plus tels qu'ils sont actuellement. Puis, je ne voudrais pas médire de mon métier, parce que j'en dépends, là, c'est très clair, mais il reste qu'il y a des signes comme tels qui se dirigent vers une possibilité qui serait celle-là. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? La littérature, l'impulsion essayistique ne disparaîtra pas, évidemment. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui va se passer quand, par exemple, éventuellement, on va aboutir à des fusions des départements qui vont faire en sorte que, en fait, l'enseignement de la littérature tel qu'on l'a connu n'aura plus la même forme et qu'on va être dans une époque de la littérature après la littérature, si l'on veut. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Où on va être dans le recensement de, bon, un peu élégiaque des départements qui ont fermé, qui n'auraient pas dû et tout le reste, ou on va peut-être trouver d'autres moyens, d'autres institutions pour essayer de parer le coup, justement, puis de faire en sorte qu'il y ait une postérité à toute la littérature en son ensemble. L'essai me semble intéressant parce qu'il a été bouté un peu en marge. C'est un genre qui, pour l'essentiel, dans sa postérité, a souvent besoin de l'université pour être lu, transmis dans les classes. C'est un genre qui a besoin de ça, notamment. Et ça me semble intéressant de faire des essais si c'est un lieu comme tel où on se pose cette question-là, justement. Parce que c'est le lieu, par excellence, où on peut le faire, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer éventuellement si ça se passe, si effectivement on n'est plus d'enseignement de la littérature? La littérature ne disparaîtra pas pour autant, mais comment on va en parler? Quel genre de conversation ça va occasionner? Il me semble que c'est des questions qu'on devrait poser, parce que ça devient un scénario très probable. Ce n'est plus du tout la science-fiction, ça pourrait se produire. Et ça va se produire de manière beaucoup moins brutale, à mon sens, si on a réussi à penser en avance qu'est-ce que ça pourrait être, ce monde-là, qui aboutit à ce moment-là.
Mais c'était ça l'idée de la naissance dans le titre du dossier. Pas ouais. Seulement de mort, là. Il y a une naissance, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, ça va se transformer. Ouais. L'essai ne mourra certainement pas, mais en tout cas, il va prendre une autre forme, une autre considération, ça va être d'autres... peut-être l'idée de société de lecture minuscule, comme Michel Morin en parle depuis des années, je pense que c'est vers là que ça s'en va, c'est-à-dire des micro-réseaux dans lesquels l'écrit peut circuler, à des éditions à petit tirage où on circule et on discute. Les revues culturelles vont jouer un rôle majeur dans les années à venir, c'est à peu près clair. Ça me semble être assez évident. Puis l'essai littéraire est aux avant-postes de ce qui s'en vient là-dessus. Mais je pense que c'est ça. L'essai, ce qui arrive, c'est on se rend compte que c'est un des premiers genres qui tombe de l'université. C'est un des premiers genres. Comment est-ce que comment est-ce que la littérature va survivre à cet abandon-là?
Je pense que la grande différence au Québec maintenant, c'est qu'on le fait de façon schizophrène. Hein? La génération de François Hébert, d'Yvon Rivard, là, qui pouvait faire de l'essai à l'université comme tel, ça, c'est fini. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que moi, je suis un exemple d'un bon schizophrène là-dedans, je pense. C'est-à-dire, je publie les articles à voix-image ou études françaises et je respecte le protocole plate, savant. Mon style est à peu près neutre. Je fais une étude. Par contre, parallèlement, j'ai publié des essais littéraires, mais pas dans ces revues-là. C'est impossible. Il faut absolument se conformer au protocole. Voix-image, envoyer un texte qui était plus essayistique, on va le retourner en disant, mais non, on veut un article savant. Donc, on veut des notes en bas de page, bien identifiées. Il n'est pas question de faire de l'intertexte par allusion. C'est l'intertexte cité à chaque fois. Et si vous avez un mot compliqué, vous avez, comme par exemple, j'avais employé le terme perlaboration, vous devez l'expliquer parce que le terme moyen ne comprend pas ça, etc. Alors, les essais, j'ai fait où? J'ai fait à Spirale, j'ai fait à Contre-jour, j'ai fait à Liberté, j'ai fait dans d'autres revues, des revues qui accueillent des essais littéraires. Mais à l'université, c'est à peu près impossible maintenant. Donc, il faut presque être scindé, avoir deux personnalités. À la limite, j'aurais pris un pseudonyme, là, il est trop tard, là, ça vaut plus la peine.
Mais donc, il continue à y avoir des lieux. Oui. Donc, il y a aussi un avenir et naissance pour l'essai. Mais est-ce qu'il y a des transformations? Qu'est-ce qu'on peut penser, justement, de cet avenir-là ou des lieux qui vont accueillir ou qui accueillent l'essai?
Ben, peut-être que justement, la revue va être absolument lié justement à ce genre-là. On déplorait notamment dans le numéro le fait que c'est pas justement à l'université, mais de moins en moins d'éditeurs donc sont prêts à publier les essais. Bon, on peut rentrer encore une fois dans un discours apocalyptique ou simplement si on pose la question de la métamorphose, disons, quelle nouvelle forme ça pourrait prendre, on pourrait y voir justement quelque chose de positif dans la mesure où les essais qui étaient peut-être trop longs sont forcés justement de se condenser dans le format que la revue leur impose. Et là, je vois Étienne sourire qui pense justement probablement... oui, tout à fait. Non, mais c'est justement, c'est un exercice, disons, de style de condenser sa pensée de plus en plus. Et peut-être que la revue, justement, est le meilleur moyen de porter l'essai à ce type, disons, de condensation de l'esprit que ne permettait pas le format livre. Et c'est comme si en perdant justement la possibilité de diffuser aussi largement qu'on a pu le faire sous le format donc livre, ben la revue permettait de redynamiser la pensée autrement, la forçant des contractions. Ouais, voilà. Une nouvelle forme de maïeutique.
Il reste quand même quelques collections qui accueillent.
Oui, bien sûr, ben oui, mais. Si on est pour repenser Montréal, finalement hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type d'espace, il me semble que la revue culturelle, justement, et c'est pas pour rien non plus que ça paraît, justement, ce dossier-là dans une revue précisément.
Et si on fait une distinction entre l'essai et l'impulsion essayistique, il me semble que l'essai a des problèmes actuellement qui sont des problèmes de visibilité, parce que quand on publie un essai, bon, que vous atterrissez si vous êtes chanceux, vous avez une bonne librairie comme l'écume des jours sur les tablettes, et vous êtes en devanture si vous êtes chanceux, vous êtes visible pendant un certain temps, 2-3 semaines, après ça vous disparaissez. Ça, c'est la forme de l'essai. Mais l'impulsion essayistique elle-même, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je me suis posé la question récemment, qu'est-ce qui distingue, objectivement parlant, une page d'un blog, par exemple, avec un essai? Et j'ai eu beaucoup de difficulté à trouver une ligne de partage claire entre les deux. Je pense que dans les deux cas, l'impulsion essayistique peut être tout à fait la même. Et c'est une question qu'on n'a pas posée dans le dossier, je me suis rendu compte, la question du support, de savoir effectivement si l'essai disparaît éventuellement du livre. Et bon, c'est une possibilité parmi d'autres, je ne la souhaite pas personnellement. Comment ça pourrait s'incarner? Ben, personnellement, je ne vois pas en quoi, par exemple, le blog ne pourrait pas prendre le relais de ça. Je suis un lecteur de papier, encore et toujours, mais en même temps, je veux bien reconnaître que c'est une des places où l'impulsion peut s'incarner, en fait.
Bien, il y a l'éternité en accéléré de Catherine Mavrikakis, qui en est un bon exemple, excellent essai tiré de ses...
En fait, dans ce cas, son blog a été conçu en fonction de faire un essai avec le blog. C'est un peu différent d'un vrai blog littéraire.
Parce que c'est très écrit.
Ah oui, non, mais elle savait très bien qu'est-ce qu'elle faisait. Il y a 52 textes finalement qui ont été retenus, donc à peu près un texte par semaine. Et puis, c'est un projet qu'elle s'est donné. Puis après un an, ton livre est là. Bon. Mais moi, je revenais sur une chose, c'est que aussi, on engage beaucoup de profs en création, mais c'est toujours avec l'idée de donner des cours généralement en roman, poésie, théâtre. On n'engage pas un prof en création pour donner de l'essai. Il y en a qui savent parallèlement. Et moi, ce qui me frappe, parce que j'ai surtout. Dirigé peut-être un mémoire en création, mais j'en ai évalué un certain nombre. C'est vraiment fascinant. L'étudiant qui a cette liberté-là essaie d'écrire son roman, son recueil de nouvelles, son recueil de poésie. Et quand vient l'essai qui accompagne, ça devient scolaire. C'est comme si je suis à l'université, maintenant il faut que je fasse quelque chose qui reflète l'institution. Et là, toute la liberté qu'ils ont eue dans la partie création, ils se l'enlèvent pour l'essai. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus décevant, parce que ça peut être, c'est quand même un bon essai. Ils ont travaillé sur un sujet qui est en relation avec leur projet de création. Mais là, tous les réflexes de l'universitaire avec l'appareil, le nous académique, toutes les stratégies formel de l'essai savant revient au galop. Je n'ai pas évalué un seul à l'Université de Montréal où l'étudiant en création dans le roman. Ouais, c'est.
Mais donc, c'est la notion même de ce qu'est un écrivain qui est en jeu. Là.
C'est ça. Moi, c'est certain que diriger un étudiant en création, je dirais, mais il faut que ton essai soit aussi un essai littéraire. Pas un essai universitaire, ça n'a pas de sens. Je me souviens, j'en ai évalué un très bon mémoire, je ne le dirai pas de qui, une pièce de théâtre assez bien réussie. Et l'essai était très bien, mais ennuyant. Quand j'ai dit à l'étudiante, elle a dit, moi, j'ai commencé à écrire un véritable essai, mais mon prof me dit qu'il fallait que je fasse un essai, un article qui aurait pu être publié dans une revue savante.
Non, autrement dit, c'est une autre manière de dire encore que l'avenir de l'essai, c'est clairement pas dans la boîte à formation des universités que ça va se produire. Autrement dit, les futurs essayistes, je pense qu'on peut même le dire à ce jour, ça a été assez simple de le prédire, les futurs essayistes ne seront pas des universitaires et ne seront pas des profs. c'est un appel
ou le front en marche.
Moi, je pense.
Dans les temps libres qui n'existent plus.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'à long terme, on peut jouer à la schizophrénie comme Gilles le fait, mais on n'aura pas. Oui, à court terme peut-être ou à moyen terme, mais à long terme, c'est beaucoup trop accaparant d'un côté ou de l'autre. Je pense que la fameuse catégorie très romantique là, de l'idée du lecteur amateur qui écrit pour son bon plaisir, je pense que c'est celle-là qui, c'est là que quelqu'un de non professionnel, c'est cette voie-là qui porte en germe le renouveau de l'essai, puis pas seulement de l'essai, de la littérature tout court. J'ai l'impression. On a vu le dernier prix Goncourt qui a été gagné par un écrivain qui est un biologiste en réalité, qui n'est pas du tout un écrivain dit professionnel, etc. Je pense que ce type d'écrivain-là va devenir prédominant. Et c'est peut-être une bonne chose pour la littérature. C'est peut-être une bonne chose de se déprofessionnaliser, de se déprogrammer, de devenir tout à coup autre chose que ce à quoi on s'attendait d'elle. Mais c'est ce que je vois se poindre à l'horizon. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Yvan Rivard.
Ça se rendra pas. Avec ce qu'Étienne dit, un bon exemple de l'essai qui se renouvelle, qu'on retrouve dans les carnets de Jean-Pierre Izanut. Et Jean-Pierre Izanut a fait de la critique littéraire de façon qu'on connaît, que j'admire, mais il devient vraiment un essayiste dans ses carnets dès l'instant où il se détourne de la poésie ou de la littérature en général et qui vient nourrir, au fond, la partie littéraire qui est en lui, qui ne pourra jamais répudier, au contact de la science. Moi, je trouve que la mort de l'essai, quelqu'un a parlé d'une zone franche tout à l'heure, c'est quand l'essai, même purement littéraire, reste dans la littérature. Le propre pour moi d'un essai, c'est la liberté de mêler tous les savoirs, d'être ignorant dans tout, en quelque sorte. Et ça, quand un littéraire, je donne l'exemple de Jean-Pierre Izanut, s'aventure sur le terrain de la physique contemporaine ou de la biologie ou de l'art de cultiver le jardin, au miracle, il est purement essayiste à ce moment-là. Moi, je trouve que ce qui va sauver l'essai, peut-être que le faux pli pris à l'université de la spécialisation du savoir a même enfermé les essayistes littéraires dans la littérature. Et moi, on n'a pas mentionné trop le mot philosophie, et le propre d'un essai, quel qu'il soit, c'est toujours une recherche de sens qui passe par la physique ou par la littérature ou par la biologie. Un essai, c'est une pensée qui cherche un sens. Et je pense que ce qui a tué l'essai, c'est la peur de la philosophie, sans nommer la peur de la métaphysique. C'est-à-dire, si tu prononces le mot « sens », c'est encore pire que le mot « âme ». Voilà.
Le deuil qui a sorti les ouvrages de philosophie de... Le deuil qui a évacué les ouvrages de philosophie.
François Hébert veut dire quelques mots?
Dans la suite de ce qui s'est dit, puis pour faire écho à ce que Guillaume disait là, sur la précision de l'âme ou quelque chose comme ça, là. L'exactitude de l'âme, je trouve ça intéressant comme idée, mais il y a eu le lapsus, tu as compris, l'exactitude de la langue. Et puis je crois que le rapport entre l'âme et la langue, c'est ça qui est intéressant. Puis quand on parle de style, au fond, on évacue un peu ça. Mais Jean-Pierre Izanut et d'autres essayistes sont des maîtres de la langue, d'abord. Donc, que tu parles de philosophie, que tu parles de littérature, que tu parles de ta vie à toi, si tu ne maîtrises pas la langue, t'es foutu. Puis plus tu la maîtrises, plus tu es un essayiste, à mon avis, puis un écrivain dans le plein sens du terme. Quand Borges donne des cours de littérature, il a l'air d'un universitaire, mais c'est un grand styliste. Et puis, c'est parce qu'il possède sa langue qu'il sait donner des leçons de littérature. Moi, c'est un modèle.
Mais est-ce que tu irais jusqu'à dire, François, que c'est parce que les poétiques, depuis quelques décennies, de maltraiter la langue, tu sais, on a vu ça très, très fréquemment, là. Je pense que c'est un discours, je n'ai même pas besoin de donner de nom, de mouvement.
Donnons-en un, Novarina, par exemple.
Non, mais...
Novarina,
exemple,
maltraite la langue, la magane,
l'idée de
c'est
faire
un essayiste magistral, ouais. Difficile à saisir, difficile à comprendre.
Ouais.
Ou Pascal Quignard à sa façon de latiniste, de grécisant, de grec, ouais. Enfin, je ne sais pas trop, là, d'antiquisant, là, il est vraiment dans la langue de façon maximale, je ne sais pas comment le dire, mais quel que soit le sujet dont il parle, c'est toujours une affaire de langue. C'est tout ce que j'avais à dire.
Moi, juste peut-être prendre la balle au bon, parlant de Quignard, qui est aussi un auteur que j'aime beaucoup. Dans Rhétorique spéculative, il s'en prend à la philosophie, mais au sens de la philosophie, disons, analytique. On ne parle pas de la philosophie, justement, qui s'élève au-dessus de tous les savoirs pour être capable de développer une forme de pensée corsaire qui ose braconner sur tous les territoires. Et il s'étonne, et je m'étonne avec lui, justement, qu'on puisse préférer le bon mou de la grenouille à la nage agile et fluide du dauphin. Pour moi, c'est ça. Et là où il doit y avoir une critique de l'université, c'est qu'il y a des esprits là qui ont... Il y a du génie qui est en germe là et on les détourne. Pour moi, c'est une forme de détournement de précieuses énergies de la conscience qui sont mises au service d'un temps absolument perdu à produire des papiers qui nous tombent tous des mains en se faisant croire qu'on est en train de produire quelque chose comme de la pensée, alors que pour moi, c'est purement, je veux dire, de la technicisation, finalement, de la littérature. Et moi, c'est vraiment... Je crois qu'il faut encore... On ne tombe pas dans un discours apocalyptique ou purement lyrique en dénonçant cette chose-là. Il y a des esprits qui... pourrait, disons, s'envoler et auquel on coupe les ailes tout de suite en partant. Il ne faut pas négliger ce pouvoir qu'a l'université de faire des chaperons, exactement.
Dans le cas des thèses de doctorat, notamment.
Hein. Notamment. Et encore une fois, on devrait baigner dans l'image et on la congédie purement et simplement à tout bout de champ. Donc, c'est...
Je peux intervenir rapidement sur Jean-Pierre Issonnut, que j'aime beaucoup moi aussi. Une chose que j'aime chez Jean-Pierre Issonnut, c'est qu'à mon sens, il incarne la règle d'or de tout essayiste, c'est de résister d'abord à soi-même. C'est quelqu'un, pour l'essentiel, qui est en mouvement toute sa vie. Et dès qu'il se trouvait dans une niche trop confortable, il faisait un saut de puce pour aller plus loin, comme ça. Et un bon essayiste, pour moi, c'est ça, parce que la mort d'un essayiste, en tant que lecteur, quand je le lis, c'est quand je suis capable de prévoir la fin d'une phrase, quand elle se trouve sur l'autre page. Quand ça se produit, là, je le pose pour très longtemps, parce que c'est un essayiste qui devient confortable au sein de ses propres formules, de ses propres phrases. Je déteste ça comme lecteur d'essai. Et mon sens que c'est quelque chose que je ne peux presque jamais reprocher à Jean-Pierre Issonnut. Il me semble que l'une des raisons pour lesquelles il a bougé très, très vite d'un territoire à l'autre quand il sentait qu'il devenait trop ferme, c'est parce qu'il avait senti, effectivement, que c'était une forme de mort. Le terme résistance, je n'aime pas beaucoup parce que je trouve trop employé actuellement dans une espèce de gloriole de résistance maquisarde là, au Québec, dans la culture, mais la résistance, c'est d'abord résister à soi-même. Et ça, Issonnut, pour moi, c'est un modèle, parce que c'est un des rares que je connais qui l'a fait jusqu'à la fin, vraiment.
C'est le mot d'ordre de la SODEP en ce moment, hein? Résistance. Ils sont en train de fonder des colloques sur la résistance culturelle, etc. Ça devient un mot d'ordre en ce moment. Résistance.
C'est pas cette résistance-là que j'ai en tête.
Évidemment.
Là.
C'est ça.
Il y avait une autre question dans la salle, monsieur, si vous voulez. Vous nommer.
Oui, André Lamarre. Je vais vous donner quelques informations historiques sur l'enseignement collégial. Ayant travaillé pendant 4 décennies comme professeur de cégep, les premières années des cours obligatoires de français au collégial, les cours étaient divisés en genres. Et il y avait un cours d'essai et un cours de linguistique aussi, d'ailleurs. Mais alors, pendant au moins presque 10 ans, il y a eu un cours d'essai. Alors, moi, j'ai été cégepien comme élève et j'ai eu à lire au cégep les nourritures terrestres, les pensées de Pascal ou des extraits, des choix de Montaigne, les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau au cégep. Dans les années 60.
70.
Ouais. Ouais, jusqu'au début des années 70. Oui, fin des années 60, c'est vrai. Et ensuite, quand je suis devenu professeur de cégep, bien là, il y a eu toutes ces vagues de transformation de programmes tout aussi incohérentes les unes que les autres, et encore aujourd'hui. Et il ne reste plus de place au genre de l'essai. Au cégep de l'Assomption, présentement, il y a l'obligation pour un prof, dans un cours, de mettre un essai au programme dans le cours de littérature québécoise. Alors, par exemple, moi, j'ai souvent enseigné Serge Bouchard, L'homme descend de l'ours, dans ce cours d'essai, en proposant aux élèves de faire à la manière de Serge Bouchard, des textes de création. Bon. Voilà. Donc, pour dire que certainement la classe a fondu à l'intérieur de l'enseignement collégial. Mais je voulais revenir sur ce que disait Jean-François. Je pense qu'il ne faut pas prendre la disparition pour acquise. Je pense que le rôle des profs de cégep présentement, c'est la défense de la littérature, c'est la défense de l'enseignement de la littérature, pied à pied. Et les vagues que vous recevez de pression pour que tous les cours de littérature se transforment en cours d'usage, rédaction, méthodologie et langue, cette pression-là, elle existe depuis le début des années 70 et les profs ont résisté. Là, c'était vrai, c'est le bon mot, et c'est encore possible. Voilà. Un petit commentaire sur les créations, les essais. Il y en a quand même qui ont été publiés qui sont tout à fait des essais. Par exemple, Denise Desautels dans La promeneuse et l'oiseau, son essai est créateur. François Charron, Louise Warren ont fait des essais d'écriture pour commenter leur texte de création.
Merci. Est-ce que... autre commentaire ou question dans la salle ou est-ce que
la question c'est Étienne... ça, c'est pas tellement de est-ce qu'il y en a eu ou pas, pardon, quelle est l'importance culturelle qu'on va donner à ces textes là c'est ça la question, parce qu'il va s'en publier pendant 100 ans encore des essais, j'en suis convaincu. La question c'est qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion. Honnêtement, ça n'a pas la même répercussion aujourd'hui. Je sais pas, moi je prends la publication d'un essai de Jacques Brault a pu avoir, je sais pas, un impact énorme en son temps. Aujourd'hui, ce type d'essai-là sort. Qui s'y intéresse vraiment? Qu'est-ce que ça a comme incidence? Ça bouscule pas les corpus, ça bouscule pas... Il n'y a pas un événement majeur qui est créé autour de ça. Vous me direz que Jacques Brault est quand même une voix relativement ténue malgré son importance, là, mais on pourrait en nommer 10 autres comme ça. C'est pas tellement le fait qu'il s'en publie plus. C'est une fausse question. Quel est l'encadrement qu'on va donner socialement? C'est notre responsabilité aussi, hein, à tous les intervenants dans la culture, oui.
Mais à ce moment-là, peut-être que vous ne parlez pas seulement de l'essai.
C'est-à-dire?
On pourrait bien parler d'une sorte de jazz, on pourrait parler d'une sorte de poésie,
oui.
Qui n'a plus de place dans l'espace... dans la sorte d'espace public de réception dont vous parlez?
Oui, c'est ça. Dans le fond, on sent que c'est ce qui arrive à l'essai, ça arrive pas seulement à l'essai, ça arrive à toutes les formes d'art, en gros. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais Nathalie veut parler, oui.
Nathalie Vatten.
C'est ça.
Oui, mais c'est un fait qu'il y a une déconsidération actuellement à l'université de l'essai littéraire. Et qu'il y a quelques années, comme tu en parlais tout à l'heure, avec l'essai de Jacques Brault, c'était très valorisé dans nos universités. Ça correspondait à la génération de liberté, ça correspondait aux gens qui avaient des idées. Tu es avec moi sur un jury de thèse où quelqu'un a dit « Ah, vous étudiez le discours des essayistes sur la pauvreté, donc vous étudiez deux genres littéraires », refusant que les essayistes puissent avoir des idées sur la pauvreté, par exemple. C'est ce que ça sous-entendait dans l'intervention.
Caricatural comme ça,
et ouais. Je pense que ce que vous avez fait dans la revue est important. Vous avez mis le doigt sur quelque chose. Il faut maintenant un essai qui va dénoncer cette pratique, cette façon de jeter un discrédit à l'université sur l'essai, parce que justement, il n'y a pas les notes de bas de page, l'état de la question, la méthodologie, etc. Je pense qu'on doit faire ça au Québec, que c'est nécessaire.
Mais se cantonner dans le rôle de la mauvaise conscience de l'université, ça serait plomber l'essai d'un poids tellement trop lourd aussi, c'est ça. C'est peut-être là, justement appeler l'essai à sortir de son cadre, c'est ça, peut-être aussi. Là,
d'une part,
s'intéresser
mais
à la musique,
part,
comme en fait Georges Leroux, s'intéresser à
oui,
sortir. Là,
d'une part, ouais. Certainement, mais d'autre part, je pense qu'il y a lieu de poser ces questions-là et d'avoir un débat sur ces questions-là.
Oui, oui, ouais, c'est déjà pas si mal, oui. S'il y a des gens pour venir, parce que je suis pas certain que ça mobilise pas les foules à l'université, cette question-là. Oui. Ouais.
Martin a mis en doute une affirmation. Quand on disait que les essais littéraires, mettons à l'époque de Jacques Brault, avaient beaucoup d'importance, oui et non. C'est-à-dire, moi, je pense que les essais littéraires au Québec avaient toujours une valeur d'accompagnement d'une œuvre de poésie ou de roman. Je pense aux essais d'Aquin et tout. les essais au Québec, même quand ils étaient pratiqués par les meilleurs, mettons Brault, Aquin et tout, n'avaient pas de valeur en soi d'une certaine façon. C'était toujours, au fond, la valeur leur était conférée par l'œuvre que l'auteur pratiquait par ailleurs dans un autre genre. Moi je pense qu'il ne faut pas... qu'on le veuille ou non, oui, c'est l'écriture. François, ce que tu dis, c'est parfait, mais c'est vrai pour la poésie. S'il n'y a pas de langue, il n'y a pas de littérature. Mais la capacité d'écrire des essais tient, je ne dis pas que c'est une évolution, que ça dépasse la poésie ou le roman ou quoi que ce soit, c'est la capacité de soutenir une pensée sur 200 pages. Et moi, ce que je trouve qu'on peut déplorer, c'est quand une génération, on parle du Québec, donc je suis d'accord avec Gilles, quand on arrive au Québec où il y a eu ces générations de personnes capables de penser sur 100 pages, ça a été confisqué et dévoyé par le savoir spécialisé de l'université. On a formé depuis deux générations, trois générations, des intellectuels, des gens qui sont capables de penser, qui viennent de la sociologie, de la philosophie ou de la littérature, mais ils n'ont pas encore atteint l'autonomie de penser en dehors du cadre universitaire qui leur a donné la capacité de penser. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut attendre de l'essai. Donc, c'est un peu normal. Je ne pense pas qu'on doive regretter la disparition de l'essai au Québec comme genre littéraire, parce qu'à mon avis, il n'a jamais existé véritablement. Il faut tout simplement travailler à son avènement. Et ceux qui vont donner naissance à l'essai du Québec, c'est probablement les gens qui ont été formés par l'université, déformés par l'université, et qui vont retrouver la liberté de penser. Voilà.
Pour un peu parler dans le même sens que ce que vient de dire Yvon, finalement, c'est qu'il me semble qu'un essayiste, c'est quelqu'un qui répond à la formule de Sartre sur l'intellectuel, c'est-à-dire qu'il se mêle et ce qu'il ne regarde pas. Et actuellement, l'un des problèmes, et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment un dévoiement de la sociologie, là, c'est que quand, par exemple, on parle avec quelqu'un, l'idée ou la question se lève dans l'esprit automatiquement, mais d'où est-ce que vous parlez? Et d'où est-ce que vous parlez, c'est une manière d'assigner l'interlocuteur à un territoire. Dès qu'on apprend, par exemple, que c'est un phénoménologue, alors hop, toute une liste qui défile d'arguments prêts à penser qui permettent de le démolir, éventuellement, si on a besoin de le faire, ou de dire, par exemple, comme phénoménologue, tu ne peux pas te prononcer sur les questions sociologiques parce que tu n'as pas, justement, la maîtrise pour pouvoir le dire. Et je pense qu'un essayiste, c'est quelqu'un qui fait constamment fi de territoires comme ceux-là, qui se mêle, qui ne le regarde pas, et qu'il faut retrouver, d'une certaine manière, à ce point de vue-là, non seulement un courage, mais une espèce d'arrogance là, typique de l'essai qui va où il veut aller, tout simplement, et puis qui fait fi, comme ça, des espèces de contrôles douaniers, là. D'où parlez-vous? Quelle est votre carte identitaire? Ces espèces de conneries-là qui entrent très, très vite à l'université parce qu'on se spécialise de plus en plus vite, finalement, et qui reviendra à dire que, ben voilà, j'ai travaillé sur tel roman des années 45-50, donc hors de ça, point de salut, je peux rien dire. Bon, évidemment, un essayiste, c'est quelqu'un qui est toujours en train de se déplacer en dehors de ça, ce qui, évidemment, à la limite, lui attire sa mauvaise réputation, parce que c'est ce que Bourdieu détestait, par exemple, chez l'essayiste. Il parle, il n'a pas les fonds pour dire ce qu'il a à dire, c'est un pur fumiste, etc. Et c'est vrai, là, on parle beaucoup de l'éloge de l'essai jusqu'à maintenant. C'est vrai que l'essai peut se dégrader jusqu'à ce point-là, quelquefois. Là, il y a des essais, pour l'essentiel, qui ratent leur coup parce qu'ils font un pari sur le fait de ne pas avoir les fonds pour parler de quelque chose. Et puis, des fois, ça rate, il faut bien le dire. L'essai en soi n'est pas exonéré d'un échec qui est toujours possible, mais il me semble que hors de ce risque-là, moi, l'essai, ça ne m'intéresse pas. L'essai, pour moi, c'est de sortir quand même un territoire qui est le sien, en fait.
Moi, je dirais, c'est oui. L'essai ne se mêle pas de ce qu'il regarde, mais c'est justement ce qui fait en sorte que les gens ne le regardent pas non plus. C'est le public rend bien.
Yvon?
Jean-François vient de dire, à mon avis, le seul essayiste au Québec qui s'appelle Pierre Vadeboncœur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend sa pensée pendant un an ou deux, il l'applique à la politique. Il n'est pas un politicologue. Il l'applique à l'histoire. Oui, il l'applique à la foi. Ce n'est pas un théologien. Il l'applique à l'art, au dessin, etc. Alors, voilà quelqu'un, au fond, qui se promène d'un champ à l'autre et qui accepte de ne pas avoir les fonds, comme tu dis si bien. Et quand il décide de s'attaquer à la postmodernité, il dit, je ne sais pas trop c'est quoi, mais mon instinct me dit que c'est pourri. Non, mais c'est ça qu'il fait.
D'ailleurs, il se trompe complètement. Quand il parle de la postmodernité,
il parle
de la modernité. C'est,
mais
c'est
tout croche, mais on comprend ce qu'il veut dire. Oui, quelqu'un a utilisé l'impulsion de l'essai tantôt. C'est quelqu'un a le goût de se bagarrer avec le réel, puis il n'a pas besoin de montrer ses titres pour le faire. Donc, il court le risque véritablement de se planter parce qu'il n'y a pas de label qui est là derrière, sur sa pensée. Et moi, je trouve que c'est ça. On parlait de la mobilité tantôt qu'on voyait chez Jean-Pierre Izanut, mais la mobilité, non seulement de prendre des risques, mais d'arriver dans des domaines qui a rien n'y amène quelque chose.
Chaque mot fait ça.
Oui. Mais c'est pas aussi évident que Vadeboncœur qui écrit un truc sur les syndicats, sur la foi, sur la littérature, sur Bordieu et surtout.
Mais Vadeboncœur est à ce point important, Yvon, qui contredit ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, c'est un essayiste qui n'a pas d'œuvre en arrière d'autre que ses essais.
Mais non, mais c'est ça, il n'a fait que ça. Ouais,
c'est ça, il en a fait que. Donc c'est un essayiste pur.
Pour moi, un véritable essayiste. C'est ça, c'est je ne dis pas qu'il n'y a pas d'œuvre à côté.
Il y avait le moine à l'époque aussi.
Mais oui, pourquoi pas?
Une autre intervention d'André Lamar.
J'ai un message de Nicolas Lévesque.
Il
était au Salon du Livre et il m'a fait part de ses réflexions qui s'agencent très bien avec celle-ci. Vous savez qu'il dirige la collection Nouveaux essais spirales publiée chez Nota Bene. Et il vit un dilemme de scission des discours au point où il est tenté de lancer une deuxième collection où il y aurait donc les essais plus près de l'université et d'autres plus libres. On pourrait dire que son dernier essai, Les rêveries de la Plaza Saint-Hubert, dans le fond, annoncerait plutôt cette nouvelle collection. En tout cas, c'est là où il en est dans ses réflexions.
Il y a une autre intervention où on peut clore donc les discussions et alors aller boire un verre de vin en remerciant la librairie L'Écume des Jours de nous avoir accueillis ce soir et merci donc à ce public qui a bien participé avec nous. Merci.